Avant de te quitter, puis-je prendre un peu de ton temps pour te demander ce que je peux faire avec le problème de peau de Sandra? Elle m'a demandé de t'en parler. Depuis qu'elle a eu ses règles, il y a 2 ans, elle n'arrive pas à se débarrasser des boutons sur son visage. Elle en a aussi dans le dos et ça la dérange beaucoup l'été, quand elle se met en maillot de bain. Elle se maquille avec des crèmes qui cachent les imperfections pour que ça ne se voie pas trop, mais ça la rend très impatiente. Je dois te dire, Anna, que je n'aime pas discuter des problèmes qui appartiennent à une tierce personne, absente par surcroît, car ma méthode de travail est basée sur les réponses que le client donne aux questions que je pose. Ce sont ces réponses qui me permettent de guider la personne à trouver sa propre réponse. Crois-tu que ta fille serait d'accord pour venir me voir? Une demi-heure serait suffisante pour une situation de ce genre. Bon, d'accord. Je vais lui en parler. Merci beaucoup pour cette visite qui me donne, une fois de plus, matière à réflexion. Quelques jours plus tard, Mario se présente seul. Il entre d'un pas lent, comme s'il hésitait à venir me voir ou qu'il était incertain du sujet qu'il voulait aborder. Il hésite même à s'asseoir après m'avoir dit bonjour. Tu ne sembles pas être dans ton assiette aujourd'hui, Mario. Es-tu sûr de vouloir être ici? Pour que notre rencontre soit efficace, il est important que tu sois ici de ton propre gré et que tu saches ce que tu attends de moi lors de cette rencontre. Le sais-tu? Oui, je suis ici parce que je le veux. Mais il y a tant d'idées qui se bousculent dans ma tête que je ne sais pas par où commencer. Comme tu peux le deviner, ma démarche avec mon fils ne s'est pas déroulée aussi facilement que je l'aurais souhaité. Je n'arrivais pas à l'appeler. Je trouvais plein d'excuses. Je ne sais pas pourquoi j'avais si peur de lui téléphoner pour lui dire que je voulais le voir. Parfois, je m'asseyais dans mon fauteuil, seul à la maison, avec l'intention de prendre le temps de sentir ce que je vivais et de découvrir pourquoi j'avais si peur de le rencontrer. Je n'y parvenais pas. Soit je m'endormais, soit je devenais si nerveux que je ne tenais pas en place. Il fallait alors que je trouve quelque chose à faire. 2 semaines plus tard, j'ai enfin eu le courage de l'appeler et de lui demander si nous pouvions nous rencontrer. Je lui ai dit que j'étais en train de découvrir des choses sur moi et que j'avais envie de lui en parler. À ma grande surprise, il a tout de suite accepté et a suggéré que nous allions dîner au restaurant italien près de chez lui un soir où il ne travaillait pas. J'étais tellement contente de réaliser que mon imagination m'avait joué des tours. Je ne sais pas pourquoi j'étais sûre qu'il ne voudrait même pas me voir. Je pensais que mon approche lui ferait peur. Ce que je sais maintenant, c'est que c'est moi qui avais peur de le voir. Il m'a avoué plus tard que lui aussi avait peur, mais son désir de faire la paix avec moi était plus grand. C'est pour cette raison qu'il a accepté de me rencontrer. Une fois bien installé au resto et après avoir commandé notre repas, je lui ai parlé de ma rencontre avec toi, de ce que j'avais découvert à propos de mon père et de la peur que j'avais de vouloir mettre les choses au clair entre lui et moi. Je l'ai senti un peu sur ses gardes quand j'ai parlé de réconciliation, mais je l'ai tout de suite rassuré en lui disant que j'avais fait un lien entre ce que j'ai vécu avec mon père et ce que je vivais avec lui. J'ai alors parlé de ma relation avec mon père depuis mon enfance et il m'a interrompu à quelques reprises pour me poser des questions. Je me sentais vraiment bien quand je l'ai vu s'intéresser ainsi. C'est devenu plus facile pour moi de parler. Ensuite, j'ai sorti la liste des accusations que j'avais portées envers mon père et j'ai demandé à David à quel moment il m'a accusé ou jugé d'avoir les mêmes traits de caractère. Sur le coup, il a été surpris de voir la liste et je le sentais mal à l'aise de me répondre. Il m'a dit « Ce que tu as vécu avec ton père n'a rien à voir avec moi. Pourquoi me demandes-tu une chose pareille ? » Je lui ai alors expliqué ce que tu nous as dit au sujet des répétitions d'une génération à l'autre et que, moi aussi, lorsque j'ai entendu parler de ça la première fois, je doutais que ce soit vrai à tout coup. Quand je lui ai dit que ça fait 25 ans que tu observes ce phénomène chez des milliers de personnes, il a été surpris, mais en même temps, je l'ai senti s'ouvrir à cette idée. Il m'a donc redemandé la liste, a pris tout son temps pour la lire, puis tout à coup il m'a dit « Je ne veux pas te faire de la peine. Es-tu sûr que tu veux que je te réponde ? à la façon dont il me regardait et au ton de voix qu'il prenait, on aurait dit qu'il était redevenu un enfant de 12 ans. C'est là que j'ai compris combien lui aussi avait peur de me parler et de me blesser, et que j'ai senti à quel point ma peur, c'était d'être traité de père sans cœur. Me souvenant de ton conseil sur l'importance de vérifier, je lui ai fait part de la peur qui venait de me saisir et lui ai demandé s'il avait, lui aussi, peur d'être un mauvais fils avec moi et un mauvais père avec son propre fils. J'ai vu que j'avais visé juste, car il restait silencieux et semblait très touché. Il hochait la tête et avait de la difficulté à me regarder dans les yeux. Finalement, il a avancé sa main pour toucher la mienne au-dessus de la table et m'a avoué à quel point il se sentait coupable de me faire de la peine au niveau professionnel, mais qu'il ne pouvait pas faire autrement, qu'il lui était impossible de changer de métier pour le moment. Je l'ai ramené à la liste des accusations en lui disant que j'insistais pour savoir dans quelles circonstances il m'avait accusé des mêmes choses. Je ne veux pas entrer dans le détail. Il suffit de mentionner qu'il m'a lui aussi accusé d'être ingrat et incompréhensif, de le laisser tomber, de ne pas l'encourager, d'être très injuste. Ce qui m'a le plus étonné, c'est quand nous sommes arrivés à l'accusation que je portais envers mon père sur le fait d'être grossier et vulgaire. Il m'a avoué que lorsqu'il était adolescent, il avait honte de moi quand il amenait ses copains à la maison, car j'essayais toujours de jouer au snob devant eux, que j'essayais de les épater en racontant des incidents de mon travail et que je parlais des gens importants, surtout des belles femmes que je rencontrais, alors qu'il savait pertinemment que mes histoires étaient très exagérées. Sais-tu ce qu'il se disait alors ? Que malgré mes efforts pour avoir l'air de quelqu'un de bien, j'avais au contraire l'air grossier. D'autant plus que quand je lâchais un juron, ses copains pouvaient facilement s'apercevoir que je n'avais pas de classe. Il m'a dit « Papa, je sais que tu aurais voulu faire une carrière honorable et avoir de la classe, mais tu n'y arrives pas. Ça se voit que tu te forces. » Il m'a coupé le souffle. Je ne savais plus quoi dire. Moi qui me croyais être beaucoup mieux que mon père, c'est ce que j'ai eu le plus de difficulté à accepter. J'ai failli lui demander s'il croyait avoir plus de classe que moi en tant que serveur dans un restaurant. J'ai eu du mal à me retenir. Il a dû le sentir parce que l'atmosphère a subitement changé. C'était comme si un voile s'était glissé entre nous. J'ai voulu continuer à lui exprimer ce que je vivais par rapport à son métier et à quel point je voulais arriver à être bien avec ça. Mais j'ai été trop gauche. Il a regardé sa montre et s'est levé rapidement en disant qu'il avait quelque chose à faire et m'a demandé si j'étais d'accord pour continuer cette conversation un autre jour. Et hop, il est parti. Je suis restée là bouche bée quelques minutes. Finalement, je me suis dit qu'au moins une bonne partie du travail était amorcée et qu'il n'avait pas fermé la porte. Nous devons justement nous revoir demain. Est-ce que tu as compris pourquoi, malgré tous les efforts que tu faisais pour être un homme de classe, tu n'y parvenais pas et qu'au contraire, tu te faisais traiter de grossier personnage? Non, pas vraiment. Il est vrai que j'ai l'habitude de pousser des jurons de temps à autre, mais il me semble que c'est rare. J'ai toujours fait en sorte d'avoir une auto neuve. Je la change tous les 2 ans. C'est très important pour mon image de vendeur qui réussit bien, d'autant plus que je parcours beaucoup de kilomètres en un an et que j'aime bien avoir une auto en bon état. Je me suis toujours bien habillée. J'ai fait tout ça pour avoir plus de classe que mon père. Je ne comprends vraiment pas pourquoi c'est le contraire qui s'en dégage. Peux-tu me l'expliquer ? Cher Mario, il y a une vérité très importante que nous avons oubliée. On ne peut pas devenir ce qu'on veut être tant et aussi longtemps qu'on n'a pas accepté d'abord ce qu'on ne veut pas être. Sais-tu ce que cela veut dire ? Que je dois accepter que je suis vulgaire et grossier comme mon père ? Jamais. Tu sais, Mario, que ce n'est pas toi qui viens de me répondre. C'est ton ego. C'est lui qui croit qu'être grossier et vulgaire est mal, qu'il ne faut jamais être ainsi. Quand ton père était grossier et vulgaire avec ses amis, crois-tu qu'il était méchant, qu'il faisait exprès pour te faire du mal ? Vu de cette façon, non. Je ne crois pas qu'il le faisait exprès. Je crois plutôt qu'il travaillait énormément et que, lorsqu'il décidait de s'amuser, il perdait le contrôle en tenant des propos déplacés. Ça ne t'arrive jamais de dépasser les limites parfois, de perdre le contrôle? Il me regarde, éclate de rire et me dit « Tu m'as bien eu. Moi, je dépasse les bornes dans les achats. Quand j'ai beaucoup travaillé et que j'ai fait un bon revenu supplémentaire, j'achète plein de choses qui ne sont pas toujours nécessaires, surtout des vêtements. Sapristi, je viens de réaliser qu'Anna me dit parfois qu'elle trouve que les vêtements que j'achète sont de mauvais goût. Je ne sais pas d'où me vient cette envie d'acheter des vêtements sportifs qui ont souvent des couleurs criardes. Elle m'a dit qu'elle a honte d'être avec moi quand je porte ces vêtements. Ce qui la fâche le plus, c'est que je m'habille si bien pour aller travailler et que quand je sors avec elle, je ne lui fais pas plaisir. Voilà un autre sujet de dispute entre nous. En plus, elle a honte des revues porno que j'achète. Elle essaie de les cacher du mieux qu'elle peut, de peur que notre fille ou qui que ce soit d'autre les voie. Quand tu exagères dans les achats, est-ce que tu veux nuire à quelqu'un d'autre? Mais non, tu le sais bien. D'ailleurs, quelle différence ça peut faire dans la vie des autres, ce que je m'achète? Je paie mes achats avec de l'argent bien mérité. N'ai-je pas le droit de m'offrir ce que je veux et de lire ce qui me plaît? Je n'empêche jamais Anna et mes enfants d'acheter ce qu'ils veulent. Je viens de comprendre. Quand mon père exagérait dans sa façon de boire de la bière, qu'il se nourrissait mal ou devenait grossier en racontant des histoires, ça ne regardait personne d'autre que lui. C'était aussi son argent qu'il avait bien mérité et son corps qui était affecté. Ouf, que de prise de conscience quand on commence à fouiller à l'intérieur de soi, n'est-ce pas? Par contre, même si je me sens bien en découvrant ces choses, je n'aime pas m'apercevoir que j'ai souvent jugé sans raison. C'est vraiment difficile de me rendre compte à quel point j'ai vécu de la colère et des émotions, alors que je n'avais qu'à laisser mon père être comme il le voulait. Bravo, Mario. Bonne conclusion. Tu es en train de faire le processus d'acceptation de ce que tu ne veux pas être. Cette étape est essentielle pour passer à l'étape suivante, qui consiste à être ce que tu veux. Tu n'as même pas besoin de te répéter ce que tu veux. Tu le sais au plus profond de toi. Ça va se faire tout seul, peu à peu, à mesure que tu ne jugeras plus l'attitude d'être grossier ou vulgaire comme étant mauvaise. N'oublie pas que le fait de faire ce travail sur toi te permet d'entamer le processus pour ton fils qui a certainement la même peur d'être grossier que toi. Ce sera intéressant pour vous deux de parler de tout ça demain. À retenir de ce chapitre. Quand on accuse une autre personne, c'est un manque de responsabilité, car on veut que celle-ci assume les conséquences de nos propres peurs. Être responsable, c'est assumer les conséquences de nos décisions, ce qui veut aussi dire laisser les autres assumer les conséquences de leurs propres choix. Laisser une autre personne assumer ses responsabilités ne veut pas dire ne rien faire. On peut la guider, lui donner des conseils, tout en acceptant qu'elle devra assumer ses propres conséquences, quelle que soit sa décision de suivre ses conseils ou non. Voilà un excellent moyen de réduire la culpabilité. Toute fonction physique du corps, quelle qu'elle soit, est influencée par le mental et l'émotionnel. On récolte toujours selon notre intention de départ. Cela implique d'être attentif et d'identifier quelle était notre motivation dans les situations où les autres nous ont accusés. On sait ainsi qu'eux aussi avaient la même intention que la nôtre. Lorsqu'on choisit de nier une situation, c'est seulement pour nous éviter de souffrir. Une personne se confie facilement quand elle se sent écoutée avec acceptation, sans aucun jugement. L'imagination devrait toujours être utilisée pour visualiser ce que nous voulons voir arriver et non le contraire. On ne peut devenir ce qu'on veut être tant et aussi longtemps qu'on n'a pas accepté d'être ce qu'on ne veut pas être. On n'a pas besoin de se répéter sans cesse ce qu'on veut. On le sait au plus profond de soi. Ça va se faire tout seul, peu à peu, à mesure qu'on ne jugera plus l'attitude d'être ce qu'on ne veut pas être comme étant mauvaise.